Donc le psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Les premiers versets introduisent le sujet de ce psaume qui est la peur, la crainte, ou plutôt la possibilité de vivre en sécurité, en confiance dans ce monde, malgré les dangers et les menaces qui nous entourent. Et c'est certainement dans ce contexte-là que David dit « L'Éternel est ma lumière ». C'est la lumière, elle est pleine de choses, mais la lumière enlève la peur. Quand on a peur du noir, comme peuvent avoir les enfants, même les adultes, la lumière bannit, chasse les peurs de pouvoir marcher dans la lumière. Et donc, David va se tourner vers l'Éternel, Yahvé, Dieu, ici dans ce psaume, pour gérer ses peurs et ses craintes. Comme vous savez, la peur, la crainte, l'angoisse, les phobies sont des sentiments très connus, très humains. Ils nous privent souvent de paix, de bonheur, de productivité. Ils nous poussent, ces sentiments-là, à prendre des mauvaises décisions ou à ne pas prendre des décisions, qui peut être une mauvaise chose. On parle de notre époque comme étant l'âge de l'angoisse, parce qu'on est très angoissé de plein de choses qui peuvent arriver. On parle souvent de crise. Mais dans cette prière, dans ce cantique, David nous apprend à comment surmonter la peur avec l'aide de Dieu. Alors je propose ce matin, à travers ce psaume, ce cantique, de voir deux sortes de peurs et puis quatre solutions à la peur. Tout d'abord, j'aimerais parler de deux sortes de peurs. David dit ici dans les premiers versets, après avoir affirmé cette vérité que l'Éternel est le soutien, le refuge, le salut pour sa vie, il dit en verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Et là, on s'est dit, mais ça c'est étonnant, comment il fait ça? Une armée entière le pourchasse, une guerre le poursuit, il dit qu'il n'a aucune crainte. Est-ce possible? Et je rappelle que pour David, c'était du vécu, cette l'armée qui le pourchassait pour le supprimer. Comme vous savez, avant de devenir roi d'Israël, David, souvent, il avait toute une armée à ses trousses, envoyée par son adversaire, Saül, avec la mission de le supprimer. Ça, c'est avant d'être roi, mais après être roi, il était souvent impliqué quand même dans la protection de son royaume et dans des guerres avec ses ennemis comme les Philistins ou d'autres peuples autour qui faisaient la guerre contre son pays. Donc toute sa vie, avant d'être roi, après d'être roi, David avait des armées qui le traquaient et qui voulaient le détruire. Et il dit « j'ai aucune crainte ». Ce qui nous étonne, parce que quand une armée entière est à vos trousses, c'est le moment, plus que jamais, d'avoir des soucis, des craintes, en tout cas. Si quelqu'un avait envie de dire aujourd'hui, la vie à l'époque était beaucoup moins compliquée, je crois que personne ici a les mêmes soucis qu'au moins David avait, donc encore ce psaume peut nous encourager avec l'expérience de David. Et comme vous savez, si vous lisez un peu le récit, les récits de la vie de David dans les livres de Samuel et de Chroniques et tout ça, vous savez que David a souvent dû fuir sagement pour sauver sa vie. Il avait peur pour sa vie, il avait crainte pour sa vie et il a changé de stratégie ou il s'en est fui. Un jour, par exemple, il a eu vent d'un projet de l'assassiner dans son lit. Alors, il a mis des oreillers sous la couette, il est parti par la fenêtre et avec le concours de son épouse et tout ça pour se sauver. Donc là, certainement, il a eu peur pour sa vie, il a eu crainte pour sa vie quand il y avait ses armées qui le pourchassaient. Mais ça c'est plutôt une bonne peur. Cette peur sur le moment qui vous fait agir. Il y a une sorte de peur, de crainte qui est utile, qui est bonne, qui vous fait agir, qui vous donne l'énergie. Par exemple, quand vous traversez la route et d'un coup vous entendez un klaxon et le crissement de pneus, là, il y a une peur qui vous fait sauter en arrière peut-être et qui vous sauve la vie. Ça, c'est une bonne peur, une bonne crainte. Mais il y a une autre peur qui me semble le sujet de ce psaume. Et c'est quand la peur va plus loin que ça. Reprenant l'exemple de cette peur d'être écrasé par une voiture. C'est une peur normale de ne pas vouloir être écrasé par une voiture. Comme une peur quand une armée entière essaie de vous détruire. Mais imaginons que cette peur d'être écrasé par une voiture devient une phobie. À point que vous ne sortez jamais dans la rue. Vous refusez de traverser tout passage piéton. Vous prenez jamais la voiture. Du coup, vous pouvez plus aller au travail. Vous pouvez plus récupérer vos enfants. Vous pouvez rien faire parce que vous avez peur d'être écrasé par une voiture. Cette peur-là, elle vous paralyse. Elle vous empêche d'agir. Elle vous donne pas l'énergie. Elle supprime l'énergie. Elle vous détruit. Cette peur-là, elle n'est pas momentanée, elle devient constante, permanente, quotidienne, angoissante. Et là, cette peur-là est une peur déraisonnable, parce qu'à ce moment, cette peur vous définit. Cette peur définit votre identité. C'est sûr que personne ne veut être écrasé par une voiture. Et chaque fois qu'on sort dans la rue, on peut être écrasé par une voiture. Il n'y a aucune garantie que vous ne serez jamais, jamais dans un accident. Mais si cette peur-là vous définit, vous avez oublié que Dieu est plus grand, que Dieu a contrôle des routes, des voitures, des armées. On a chanté tout à l'heure l'Éternel, le Dieu des armées, pour rappeler que voilà, Dieu dispose de voilà, tous ses anges et ses multitudes à son service. Il peut protéger ses enfants. Alors David se rappelle que même si une armée me pourchasse, Dieu est plus fort que cette armée. Et ce psaume nous invite à poser une question très intéressante pour nous, qui touche à notre identité, finalement. En se posant cette question, de qui ai-je peur? Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Qu'est-ce que je redoute? Qu'est-ce que je crains le plus dans ce monde, dans cette vie? Quelles peurs reviennent souvent dans mes pensées? Est-ce la peur d'être rejeté? Est-ce la peur d'être critiqué? Est-ce que la peur d'être abandonné par sa famille, comme David a pu connaître à des moments? Est-ce que c'est la peur de perdre un enfant, perdre un conjoint, perdre un travail? Ces peurs-là peuvent parfois devenir des peurs qui contrôlent notre vie, alors que ça devrait être Dieu qui contrôle notre vie et ses promesses, son caractère. Et David veut se rappeler dans ce psaume que ses ennemis ne seront jamais plus forts que Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire, de qui aurais-je peur? Même si une armée me pourchasse, je n'aurai aucune crainte. C'est-à-dire cette crainte qui paralyse, cette crainte qui déprime, qui angoisse. Parce qu'il connaît Dieu. Dieu est plus fort que tout ça. Allez, il veut se rappeler ça. Donc, deux sortes de peurs. Une peur normale, salutaire, salutrice. Ça, c'est pas cette peur d'homme-là dont David parle, mais cette peur qui définit toute une vie parfois. Il revient à Dieu pour surmonter cette peur. Alors, dans la suite du psaume, je pense qu'il va donner des solutions à comment vivre cette vie sans peur. cette vie de confiance où voilà, son cœur n'aurait aucune crainte, plein de confiance, comme il dit en verset 3. Et on peut s'attendre à ce que la suite du psaume nous aide à vivre sans peur. Et si on suit les versets, je vous propose 4 solutions pour surmonter la peur. 4 solutions. Premièrement, se mettre dans l'attente. Ensuite, participer au culte. Ensuite, rester sur le sentier. Et enfin, espérer la résurrection. Voilà 4 solutions pour surmonter la peur. Se mettre dans l'attente, participer au culte, rester sur le sentier et espérer la résurrection. Tout d'abord, se mettre dans l'attente. Le premier réflexe de David, en pensant à ses peurs et ses craintes, et ses menaces, ses ennemis autour de lui, c'est d'évoquer ce désir d'être dans la maison de l'Éternel, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. » Donc David, dans sa tête, la solution à les peurs et les craintes, c'est être protégé, caché dans l'abri d'une tente. Alors, c'est quoi cette tente? Alors, à l'époque de David, la maison de l'Éternel, le temple, c'était pas encore construit, c'était le tabernacle, cette tente que déjà Dieu avait mis en place avec Moïse et qui était le centre du culte et de la vie d'Israël. Et donc David veut se réfugier dans ce tabernacle, cette tente. Et je rappelle qu'à l'époque de David, de son vivant, il n'y avait pas encore le temple construit à Jérusalem. Du fameux temple de Salomon. Bien sûr, ce n'était pas construit puisque Salomon, c'était le fils de David. Donc, à l'époque de David, la maison de l'Éternel, le temple, ce n'est que ce tabernacle, cette tente. Et il faut le savoir que pour une bonne partie de la vie de David, cette tente n'était même pas installée à Jérusalem. Donc, David, il n'a jamais habité dans le tabernacle. D'ailleurs, c'était interdit à tout le monde. Il n'y avait que les sacrificateurs, les lévites qui pouvaient entrer dans la tente, dans le tabernacle, et même eux, ils n'y habitaient pas. Alors, quand David dit « Je vais me cacher à l'abri de sa tente, à l'abri du tabernacle », évidemment, il ne parle pas littéralement. D'ailleurs, quand David était face à Goliath, pour remporter sur Goliath, il n'est pas allé se cacher dans le tabernacle. Et il était plus fort par la foi. Et ça, c'est ça qui est curieux. Et quand il y a ses peurs et ses craintes, il dit « Je vais me cacher à l'abri d'une tente. » Au premier abord, ça peut sembler pas très solide, une tente contre des armées et des méchants et des adversaires qui sont autour de lui. Un coup d'épée dans une tente, c'est fini. Quand les bombardements commencent, on se met plutôt dans un bunker, pas dans une tente. Et pourtant, David dit, je vais me réfugier dans une tente. Alors, à quoi il pensait-il? C'est quoi cette tente qui va le protéger? Eh bien, pour les Juifs, la tente, le tabernacle et par la suite le temple, c'était le lieu de sacrifice. C'était le lieu où ils venaient et en faisant des sacrifices, ils pouvaient être conscients que Dieu pardonne. Ils pouvaient être conscients que Dieu les voyait justes, parce que le sang du sacrifice couvrait, cachait leurs fautes. C'était ça le cœur de l'activité au temple et au temple par la suite, c'était les sacrifices. Et en venant dans la tente, en prenant mesure de ce qui se faisait dans la tente, de tout ce symbolisme du salut de Dieu, de la manière que Dieu sauve, c'est-à-dire il couvre nos fautes, il nous pardonne par le sacrifice, il a pourvu que quelqu'un prenne notre place pour nous voir justes et saints et purs à ses yeux. En pensant à cette tente-là, en venant à cette tente-là, David peut dire au verset 6, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. » Quand je pense à cette tente et le salut que Dieu m'y offre, eh bien déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Pourquoi? Eh bien, parce que ces ennemis, ces méchants, ces faux témoins, ces soucis, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent, ça ne changerait jamais le verdict favorable que Dieu a prononcé sur nous. C'est ça le message de la tente du tabernacle, que Dieu nous agrée, que Dieu nous justifie, que Dieu nous voit juste, non pas à cause de nous, mais à cause du sang, du sacrifice. Et donc, tous ces soucis, tous ces craintes, ces peurs que peuvent lui causer ses ennemis, il sait déjà que Dieu l'aime, que Dieu l'agrée, que Dieu l'accueille, que Dieu le veut, que Dieu le pardonne. Et c'est pour ça qu'il peut dire déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Et pour le chrétien, finalement, si nous faisons pareil que David, dans les moments de peur et de crainte, lui, il n'avait pas un bâtiment physique dans lequel il se réfugiait, pas plus que nous. Mais pour le chrétien, se réfugier dans la tente, se mettre dans la tente, évidemment, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est d'aller à Jésus, c'est d'aller à la croix, c'est ce lieu de sacrifice où Dieu a pourvu à notre place en Jésus-Christ, qui a payé pour nos fautes, et d'être caché en Jésus-Christ, d'être protégé par ce tabernacle, ce temple-là. Là, on est à l'abri des ennemis. Souvenez, nous avons étudié l'évangile de Jean pas mal, et souvent dans l'évangile de Jean, cette pensée revient que Jésus affirme être le temple, le tabernacle, le symbolisme et toutes ces choses de l'Ancien Testament pointées vers Jésus. Et Jésus va accomplir la réalité dont parle dans l'image le tabernacle, cette tente et le temple qu'ils vont construire à l'époque. Alors nous aussi, tout comme David, nous pouvons nous habiter toute notre vie dans cet abri, dans cette maison de l'Éternel qui est Jésus-Christ, caché dans le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Et ça fait qu'à partir de ce moment, si on est en Jésus-Christ, personne ne peut nous accuser à raison. Personne ne peut nous critiquer à raison, puisqu'on est couvert par la perfection de Jésus-Christ. Et souvent nos peurs et nos craintes viennent justement de ce que d'autres pensent de nous, ou d'une angoisse de ce qui va nous arriver. Mais d'être dans l'attente, nous savons ce qui va nous arriver. Nous serons accueillis, nous serons aimés, nous serons admis dans la présence de Dieu. Donc, première chose pour gérer nos craintes et nos peurs, c'est se mettre dans l'attente, qui pour nous, c'est se mettre en Jésus-Christ. Une deuxième chose pour surmonter nos peurs, c'est de participer au culte. De vivre un culte. C'est aussi ce que David fait dans ses peurs. Je reviens au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Puis verset 8, il dit aussi mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Je pense qu'on est conscient que la solution souvent à nos peurs, c'est d'être conscient de la présence de Dieu, c'est de pouvoir voir sa face, de chercher sa face. Je me souviens une fois, j'étais dans un carrefour, j'avais mon fils Justin avec moi et on était ensemble, mais à un moment, j'étais à un bout d'une allée, il était à l'autre bout, il m'a pas vu. Et il pensait avoir perdu son père. Effectivement, il y a un moment de panique, il voit pas. Mais à force, je me fais voir et il voit que j'étais juste là et immédiatement les peurs se dissipent parce qu'il est conscient de la présence d'un Père qu'il aime. Et ça, c'est pareil pour nous. Nous avons nos peurs et nos craintes, et parfois ces moments de panique. Mais si seulement on était conscient de la présence de notre Père Céleste, si seulement on savait être là, on pouvait le voir, là, il n'y aurait plus de peur et de crainte. Et c'est ce que David exprime dans ce psaume et dans beaucoup d'autres psaumes, dans ces moments de difficulté et d'angoisse. Il dit, ce que je veux, ce qu'il me faut, c'est contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel, de voir sa face, de chercher sa face, de sentir sa présence. Et là, ce serait bon. Mais concrètement, comment voir, comment contempler la magnificence de l'Éternel? Si je vous disais, allez-y, contempler la magnificence de l'Éternel, chercher sa face. Comment vous faites? Comment nous faisons? C'est parfois un peu abstrait. On a parfois l'idée que les chrétiens de l'Ancien Testament voyaient facilement Dieu, mais c'est pas le cas. David n'a pas vu la face littérale de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, personne ne peut voir sa face et vivre. Même Moïse voyait juste son dos ou un peu la gloire de l'Éternel, une émanation, mais pas la face même. Alors, comment nous allons faire, comment faire cette démarche de contempler la magnificence de l'Éternel dans sa maison, de chercher sa face, de se tourner vers lui, d'être conscient de sa présence? Et c'est C.S. Lewis, un professeur d'Oxford justement, qui a des remarques intéressantes à ce sujet. Il a un livre sur les psaumes. Et il remarque ceci, il remarque que lorsque les psalmistes mentionnent qu'ils ont vu le Seigneur ou qu'ils aspirent à le voir, la plupart font allusion à quelque chose qui s'est passé dans le temple. Et on le voit un peu ça ici. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Et finalement, nous voyons que c'est par ce culte que Dieu a mis en place pour Israël. C'est à travers les activités qui se faisaient au temple. On a déjà parlé des sacrifices. Et bien sûr, il y avait des chants, les célébrations. Il y avait les fêtes de l'Éternel à travers l'année. Tout ce symbolisme, toute cette pratique du culte, toutes ces célébrations, c'est là où ils apprenaient à connaître Dieu. C'est là ils s'approchaient de Dieu. C'est là ils découvraient Dieu, son caractère et sa magnificence. Alors ce souhait de contempler la magnificence, finalement, David le vivait en participant à ce culte avec le reste de son peuple, notamment en chantant par exemple les psaumes. Les psaumes sont des chants faits pour être chantés ensemble au culte, le culte juif à l'époque et puis encore aujourd'hui, chrétien. Alors pour vous, si vous voulez chercher la face de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Ben, ça se passe par ce que les chrétiens appellent souvent un culte personnel où, voilà, dans la prière personnelle, dans la lecture personnelle de la Bible, on découvre Dieu. Et toute notre vie doit être un culte. Mais évidemment, ça se passe aussi par l'Église, par la communauté réunie, la communauté des chrétiens qui se réunit. Et c'est surtout dans ces moments de culte où ensemble nous approchons de Dieu. C'est là où nous pouvons contempler sa magnificence. C'est avec nos frères et sœurs, en chantant ensemble, en priant ensemble, en découvrant ensemble sa parole, que souvent nous avons l'impression d'avoir été touchés par Dieu, d'être conscients de sa présence. C'est comme ça que Dieu se révèle à nous. C'est souvent là où nos peurs sont remplacées par la joie en Dieu. Vous avez déjà vécu cette expérience, je pense, d'avoir passé une semaine difficile, angoissante, ou de faire face à une semaine qui vient difficile. Mais vous venez et vous passez ce temps le dimanche matin. Après, on a d'autres moments, mardi soir, mais vous passez ce moment avec vos frères et sœurs. Et les vérités que vous chantez, les vérités qui sont priées, là, ça vous donne une autre perspective sur la vie et vous voyez que vos peurs et vos craintes disparaissent. Donc oui, une solution, c'est peut-être étonnant, mais une solution à nos peurs et nos craintes, c'est vivre l'Église, vivre un culte, participer vraiment à ce culte, un culte que nous essayons de faire d'après la Bible. Et John Stott, c'est un fameux pasteur, écrivain, on lui a demandé une fois, quand est-ce que vous vous sentez le plus en vie? Quand est-ce que vous vous sentez le plus en vie? Et sa première réponse, c'était... Et il a dit, c'était quand je participe au culte public. Pas juste le culte personnel, mais le culte public. C'est là où je suis transporté dans la réalité ultime de ce monde. Je me rappelle qu'il y a Dieu qui existe, qu'il y a des multitudes d'anges et d'archanges et tout ça. Et nous participons à ce concert de louanges et c'est aussi notre destinée. Et puis toutes ces promesses. Donc, quand est-ce que vous vous sentez le plus en vie? Le culte public. Il a donné d'autres réponses. Il a dit aussi en vivant des amitiés. Et puis, en étant dans la nature. Mais sa première réponse, c'était le culte public, ce qui est très intéressant. C'est là où l'homme peut vraiment s'épanouir. Donc, si vous luttez avec des peurs et des angoisses, peut-être faites comme David, avec ce désir de chercher la face de Dieu. Et comment vous allez chercher la face de Dieu? Eh bien, avec vos frères et sœurs, ici, tous les dimanches matins, entre autres. Peut-être ça veut dire venir un peu plus avant et prier dans la salle de prière avec Juan et Simon et passer ce temps dans le recueillement. Peut-être ça veut dire chanter de tout cœur, mettez un peu plus de décibels quand vous chantez. Peut-être ça veut dire servir dans un ministère de l'Église où vous pouvez prendre soin des autres, ça aussi c'est un culte. Vous voyez, c'est comme ça que nous vivons ce désir de contempler l'Éternel. Donc se mettre dans la tente, vivre un culte et puis rester sur le sentier. On avance un peu dans les versets. Verset 11, David prie, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi sur le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Dans les situations d'angoisse et de peur, David prie ainsi, « Conduis-moi dans la voie de la droiture, conduis-moi dans le sentier. » À cause de mes ennemis. Pourquoi à cause de mes ennemis? En quoi ça peut aider? Peut-être je peux l'illustrer comme ça. Si une voiture de police, de gendarme vous suit pendant un moment, déjà il y a un petit pincement de cœur, je crois, une petite crainte, une petite peur. Là, il n'y a pas longtemps, les gendarmes m'ont arrêté au bord de la route pour un contrôle de papier. Alors effectivement, un petit peu de cœur, de crainte, j'avoue. Mais c'était ma première réaction. Mais rapidement, j'ai pu me rassurer en disant, attends, je me conduis dans la voie de la droiture, je crois. Mes papiers sont en règle. Là, il y avait une circulation dense, alors il n'y avait pas d'excès de vitesse. Et ça m'a rassuré, il m'a demandé mes papiers, j'avais mes papiers, il m'a laissé repartir tranquillement. J'étais sur le chemin de la droiture. Mais si j'avais 200 kilos de cocaïne dans le coffre, là, j'aurais peur, même si c'est un contrôle de papier. Là, quelque part, je leur donne encore des raisons de m'embêter. Et encore, les gendarmes ne sont pas nos ennemis, en général. Mais c'est pour montrer que si les épreuves et les dangers et les soucis nous arrivent alors qu'on marche dans la lumière, dans la voie de Dieu, ce serait pas facile, mais on est libre. Notre conscience est libre. On est fort de toutes les promesses de Dieu. On sait qu'on a sa présence. On vient de le vivre, on peut le vivre avec d'autres dans le culte. On sait qu'on a son verdict favorable sur nous, qu'il nous a prononcé en Jésus-Christ, notamment à la croix. Donc, on est dans l'attente, on vit un culte en permanence, et les soucis connaissent déjà votre adresse, ils savent vous trouver, vous tous, mais on a la présence de Dieu avec nous. Par contre, si nous marchons sur une voie que l'on sait être contre la volonté de Dieu, alors là, oui, la peur et les angoisses risquent de nous ronger ou de devenir pire. C'est ça, d'ailleurs, dans la Bible, marcher dans la lumière, c'est marcher dans les voies de Dieu et bénéficier de toutes les lumières. Vous pouvez être embêté sur une rue éclairée en pleine journée, mais il y a certains quartiers, si vous allez là, dans le noir, au milieu de la nuit, vous risquez encore plus de soucis. Et quelque part, la prière de David ici, c'est « Garde-moi sur le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Je ne vais pas donner à mes ennemis encore plus de moyens de m'embêter. » Vous savez, on peut être persécuté parce qu'on est chrétien, ou bien on peut être persécuté parce qu'on est une personne pénible et désagréable. Et voilà, nous voulons être ici, la prière, c'est aide-nous à marcher d'après Jésus-Christ, d'après son caractère, d'après sa manière, et à cause de mes ennemis. Parce qu'il dit dans le verset 12, là, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. » Des faux témoins. J'ai regardé un peu dans la Bible, il y a beaucoup de fois, ou plusieurs fois en tout cas, où ils ont ramassé des faux témoins pour détruire quelqu'un. Et de tout temps, encore aujourd'hui, c'est une bonne méthode pour descendre quelqu'un, pour se débarrasser de quelqu'un. On l'accuse à tort. Mais quelque part, il vaut mieux être faussement accusé de mal que d'être véritablement accusé de mal. Il vaut mieux que ce soit des faux témoins que de vrais témoins qui cherchent à nous détruire. Et c'est ça, lorsque nous voyons, marchant dans le sentier de Dieu, lorsque Jésus est notre chemin, notre sentier, comme il peut l'être, eh bien, tous nos adversaires, Satan le premier, ne sera qu'un faux témoin. Tout ce que Satan aimerait dire ou vous accuser, ce serait du faux témoignage si on est en Jésus-Christ. Et on peut marcher déjà la tête haute avec Dieu. Donc, rester sur le sentier, se mettre dans l'attente, vivre un culte, rester sur le sentier de Dieu. Et puis enfin, espérer une résurrection. Voilà comment gérer et surmonter nos peurs. David termine avec cet appel à espérer. Et il dit une belle chose en verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Donc il est entouré de persécuteurs, de méchants, des adversaires, des armées, des guerres. Mais il espère, il est sûr de pouvoir voir la bonté de l'Éternel. En plus, il ajoute sur la terre des vivants. Je reviens à ces cas de faux victimes, ces victimes de faux témoins. Pas de faux victimes, mais de victimes de faux témoignages dans la Bible. Il y a par exemple Étienne, le premier martyr chrétien qui a été lapidé. Il y a un certain Naboth dans l'Ancien Testament, le méchant roi Achab, voulu prendre quelque chose qui était à lui. Alors il a trouvé des faux témoins. Ils ont dit, je l'ai entendu blasphémer l'autre jour, alors on lapide. Et le roi a pu récupérer ses terres. Et puis bien sûr, Jésus-Christ lui-même, il a été victime de faux témoignages. Ils ont essayé de l'accuser de blasphème et tout ça. Et ils ont enfin réussi à le condamner. Donc ces personnes-là, ils étaient entourés de persécuteurs, de méchants. Étienne, Naboth, Jésus. Est-ce que eux, ils ont vu la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants? Si on limite uniquement à cette vie, c'est difficile à dire. Hein. Ils ont été tués, exécutés et voilà, ils ont perdu. Mais nous savons, et David le savait, que voilà, nous allons voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, puisqu'il y a une résurrection. C'est ce que nous espérons en tant que chrétiens, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et Jésus l'a déjà montré par sa résurrection, il est revenu d'entre les morts. Et là, il a vu la bonté de l'Éternel. Jésus était celui qui était pourchassé et traqué, mais il a marché dans le sentier de la droiture jusqu'à la croix, il est même mort. Mais il est ressuscité. Et c'était ça la délivrance. C'est pour ça qu'il n'avait pas, il pouvait faire face à la croix parce qu'il espérait en l'Éternel, il espérait la vie, il espérait de voir la bonté de l'Éternel. Même après la croix, il y avait une résurrection. Et c'est ce que nous pouvons espérer aussi, quels que soient nos cœurs, nos craintes et nos peurs, mettons-les à la lumière de la résurrection. Celle de Jésus-Christ est la nôtre qui est promise, qui vient avec. Qu'est-ce que écrasé par une voiture, même ça, c'est pas l'ultime réalité pour les chrétiens, une résurrection. Attaqué par une armée, on peut être en paix, puisqu'on sait que voilà, il y a une vie qui est garantie. Je pense que Pat Benning, j'aime bien, il a une autre manière d'exprimer ce verset 13. Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il est dit comme ça dans une de ses chansons. Je vais danser sur ma propre tombe. Je vais danser sur ma propre tombe. Un chrétien, il va danser sur sa propre tombe. Alors, pensez à cette vérité face aux peurs et des angoisses. Vous allez danser sur votre propre tombe. Et pour danser sur votre propre tombe, il faut une résurrection, il faut un nouveau corps. Vous aurez des jambes qui marchent, qui dansent enfin. Et voilà, ça c'est l'espérance chrétienne. Et donc David termine avec cet appel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et nous pouvons le faire aussi. Quelles que soient nos peurs et nos angoisses, nous savons que Jésus les a vaincus à la croix par sa mort et sa résurrection. Et nous allons aussi danser sur notre propre tombe.